Béni sois-tu, tendre Maître. Jésus, nous sommes à toi. À toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu, tendre Roi. Merci pour cette occasion que tu nous donnes encore pour lire ta parole. Seigneur, merci pour avoir été avec nous, avec chacun et chacune de nous pendant ce jour. Et maintenant, avant de dormir, d'une façon générale, nous venons autour de ta table pour t'écouter. Ces jours, tu nous parles à travers Paul qui s'adresse à son fils. Et ce que Paul écrit à Timothée est valable pour nous tous. Nous venons avec joie pour t'écouter. Toi aussi avec nos bien-aimés frères et sœurs avec qui nous partageons la parole, que nous soyons tous là pour t'écouter ce soir. Merci notre Dieu, merci notre Seigneur. En ton nom nous te prions. Amen.
Amen.
Ah, merci. Bien-aimés, nous sommes au quatrième chapitre de Timothée. Nous lisons les 8 premiers versets. Et nous allons demander à notre frère, pasteur Célestin, de nous lire cette partie de l'Écriture.
Oui, merci Papa José pour la parole. Je vais utiliser la version du semeur. C'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te les recommande solennellement. Proclame la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances, le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Car, en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui avec amour attendent sa venue. Amen.
Amen. Oui, merci beaucoup, papa pasteur, pour la lecture dans cette version. Bien-aimé, nous nous approchons de la fin de cette lettre. À partir du verset du chapitre 3, l'apôtre s'adresse, comme dans tous les autres chapitres 1 et 2, mais ici, à partir du verset du chapitre 3, il parle de ceux qui arriveront dans les derniers jours. Et nous avons dit que nous sommes dans les derniers jours. Il a décrit les hommes et les femmes de ces temps, de notre temps, et il a mis en garde son fils dans la foi de ne s'attacher qu'à ce qu'il a appris. Et surtout, hier, il lui a dit que tu dois demeurer ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Depuis sa tendre enfance, Pierre, Timothée était habitué à la parole de Dieu, grâce bien sûr à sa maman et à sa grand-maman. Et il termine le passage, le chapitre 3, par montrer la place de l'écriture dans la vie du croyant. Aujourd'hui, il met l'accent sur l'évangélisation, sur la prédication, en tenant compte toujours de ce mauvais temps, parce que les hommes et les femmes, bien sûr, ne vont pas prêter oreille favorable à la parole de Dieu. Mais ils s'attacheront plutôt à des récits. Ça, c'est ce qu'il dit à son fils. Et il termine là où nous avons, à partir du verset 6, il parle de son expérience, que pour lui, il arrive à la fin de sa vie. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il dit. Voilà, encore une fois, une parole qui s'adresse à nous aujourd'hui. Nous prenons cela au sérieux parce que...
Il faut que tu me ramasses toutes tes chaussettes qui traînent.
Parce que Timothée n'est plus. Paul, Dieu, le Seigneur s'adresse à nous aujourd'hui. Nous avons quelques questions à répondre afin d'approfondir le texte. Nous avons la question numéro 3. Les exemples à suivre ou à ne pas suivre. La question numéro 5, s'il y a promesse. La question numéro 4, s'il y a un ordre auquel obéir. Et n'oublions pas la septième question sur la vérité. que notre Dieu nous révèle dans les textes. Voilà, bien aimé, ce que nous pouvons dire de notre passage de ce soir. Nous savons combien de temps, combien de minutes nous prenons pour partager. Et comme nous n'avons que 8 versets, je souhaiterais que nous puissions être moins gourmands afin de permettre aux autres de dire quelque chose aussi. Moins gourmands, dans, par exemple, le verset, on peut ne pas tout terminer de ce qui est dit dans le verset. On peut prendre une partie, tu parles d'une partie et tu laisses une autre à une autre personne. Voilà, c'est ça le partage, comme nous partageons quelque chose à manger ou à boire, hein, on se partage. Surtout que cela est succulent, alors il faut qu'on pense aux autres qui ont faim également. Merci beaucoup, bien-aimé. Vous avez la parole. Bon, je peux commencer. Ah oui. Papa Célestin ou maman Christine?
Oui, merci pour la parole, Papa José.
Oui.
Le quatrième chapitre commence par « C'est pourquoi
oh. ».
Quand on commence « C'est pourquoi », ça signifie que tout ce qui précède est très, très important. Quand je prends les deux derniers versets, dans lequel il a beaucoup insisté sur les Écritures, il a montré leur importance, leur utilité, et il a terminé par « c'est cela qui va former tout homme sur la terre qui va se dire appartenir à Dieu ». L'homme de Dieu, la femme de Dieu, se trouvera parfaitement préparé et équipé. L'inverse aussi est que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui néglige la parole de Dieu, les Écritures saintes, se trouvera parfaitement mal préparé et mal équipé pour bien vivre la vie chrétienne ou mener toute bonne œuvre qu'il a déjà préparée. Après avoir terminé le chapitre 3, il va commencer par ce pourquoi je t'adjure en présence de Dieu et de Jésus-Christ dans la perspective de son retour glorieux. Celui qui va juger les vivants et les morts ainsi que son règne. Ne fût-ce que le premier verset nous montre le sérieux de la personne qui écrit. Il prend à témoin pas n'importe qui. Il prend celui qui a créé les cieux et la terre. Il prend celui qui est venu pour relier, instaurer la communion, la relation entre la terre et les cieux, et même qui va revenir après avoir pris toute la divinité, en quelque sorte, le Père, le Fils, et même là, nous voyons sous-entendu le Saint-Esprit, va maintenant commencer les recommandations. Donc, je m'arrête juste dans ce petit verset pour montrer, nous nous rappelons que dans les commandements, il a été dit, ne prends pas le nom de Dieu en vain. Et quand Paul vient prendre Dieu à témoin, Jésus-Christ à témoin, son règne, son retour à témoin, c'est très sérieux. Amen.
C'est très sérieux, c'est très important le message qui suit, puisque Dieu, dans sa totalité, est là, il est témoin. Merci beaucoup, pasteur. Oui, je peux continuer. Au verset, je reste encore au verset premier, souligner le rôle que jouera le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, lorsque il était venu pour la première fois, il était humble. C'est un homme simple, qui était aussi confondu. Souvenons-nous quand les brigands, les bandits envoyés par les autorités juives pour arrêter le Seigneur, comme c'était la nuit, le Seigneur était là avec les disciples et il a fallu qu'il dise « Me voici, je suis ici, laissez-les. » Pourquoi? Parce que il était comme eux. Il était comme eux. Bien-aimé, quand il va venir, c'est en tant que juge, selon la parole. En tant que juge, il vient pour juger le monde, le vivant et les morts. Les vivants, ce sont les hommes et les femmes qui seront en vie quand le Seigneur reviendra. Et les morts, bien sûr, ceux qui sont morts. Alors, les morts et les vivants seront jugés par le Seigneur. Il vient en tant que juge cette fois-là. C'est très important, bien-aimé. Nous devons donc nous préparer en conséquence. Merci. Tu veux, oui, Papa Célestin ou maman, vous avez la parole.
Oui, merci encore pour la parole, Papa José. Nous entrons maintenant au deuxième verset. Le premier a été comme étant l'emballage. Mais nous regardons maintenant les contenus du message. Dans les contenus, il commence par « prêche la parole ». « Sois zélé pour elle et proclame avec insistance ce message divin ». Donc je m'arrête dans un premier temps sur ces trois éléments. « Prêche la parole ». Et sois zélé pour elle. Proclame-la avec insistance, ce message divin. Ça nous montre là déjà un commandement pour lequel il faut réellement s'investir. L'ordre est donné, prêche la parole. Sois zélé pour réellement prêcher la parole. Une personne qui est zélée, c'est une personne qui est disponible à tout moment. Quand on est disponible, on va profiter de n'importe quelle occasion et partout où Dieu nous place comme étant une opportunité. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'opportunité à prêcher, à parler du Seigneur, tout simplement parce que nous ne sommes pas zélés. Nous ne sommes pas rendus disponibles pour que Dieu nous utilise partout où nous sommes. C'est ce qui fait que nous pouvons être avec des collègues de service, de classe, de voisins. Tout nous est permis de parler, sauf de la parole de Dieu. Tout simplement parce que nous n'avons pas cette disposition, ces ailes où nous devons profiter de toute occasion. C'est ça en fait les ailes, la disposition d'être prêt à libérer les contenus du message qui est à nous. Voilà, j'aimerais dans un premier temps m'arrêter sur ce commandement prêche et sois zélé pour ce message. Enfin, merci.
Oui, merci beaucoup, pasteur. Prêche et sois zélé. Toujours dans ce même verset, l'apôtre parle de l'insistance. Parler ou prêcher la parole de Dieu avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. Que l'occasion soit favorable ou non. Ici, on peut parler de l'urgence. L'urgence de prêcher. Et ce n'est pas tout le monde qui prêche, qui va dans un endroit bien préparé pour prêcher. Non, on peut dire que le prêcher ici doit entrer dans le sens de témoigner. Le prêcher reste prêché, bien sûr, mais il faut l'étendre aussi au témoignage. Chaque fois que nous nous adressons à quelqu'un au nom de Dieu pour parler de Jésus, nous faisons ce que l'apôtre demande à son fils. Et il ajoute avec insistance, c'est urgemment, il faut le faire, il faut le faire. Mais très souvent, nous laissons des occasions, nous laissons passer des occasions, mais à ce moment-là, nous ratons aussi des occasions, c'est-à-dire au lieu d'atteindre, ne fût-ce qu'un petit nombre. Nous n'atteignons rien. Voilà. Et là, nous ne faisons pas vraiment ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. Prêchez avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. Nous devons le faire. Oui, frère Gaston.
Sois zélé pour la parole du Seigneur. Réfute les erreurs. Démontre. Ce sont, je suis interpellé par ce passage en tant que chrétien et individu. Je ne dois pas attendre les ailes tout d'abord de mon église. C'est moi-même en communion avec le Seigneur. Quand je puise ma force dans le Seigneur Jésus-Christ, je suis zélé, je demeure zélé. Comme j'ai goûté combien il est bon et je m'engage à le servir. Je ne vais pas chercher des discussions folles, mais chaque fois qu'il y a erreur, je dois réfuter les erreurs, sachant bien qu'il y a des fausses doctrines et je dois démontrer. Et si on doit démontrer, ce n'est pas par la force physique, mais par la parole de Dieu. combien je dois me nourrir de la parole de Dieu pour être prêt à démontrer à ceux-là qui sont dans l'erreur ce que la parole de Dieu dit à propos de telle ou telle situation et où va le monde actuel. Ce passage où je reviens encore sur zélé, si moi je suis zélé, je vais aussi influencer mon église ou bien mon entourage. S'il y a deux ou trois personnes qui sont aussi zélées, c'est toute l'église qui sera zélée. Que je ne cherche pas que les autres soient zélés ou je pars dans cette église parce qu'il y a beaucoup de zèle. Je dois l'être. Et nous ne sommes pas nés zélés, mais on le devient par cet amour que je développe avec le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, je n'aurai pas honte de parler de lui, de saisir chaque occasion et qu'il sache qu'il y a un chrétien qui est quelque part, pas un chrétien de nom, mais un chrétien qui s'est engagé réellement à livrer ses bons combats. Amen.
Merci beaucoup, frère Gaston. Que nous soyons des chrétiens sérieux qui doivent annoncer l'évangile. Merci beaucoup. Papa Célestin ou maman Christine, si l'un de vous peut prendre la parole.
Merci, pasteur José des États-Unis, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis au verset 3. Pourquoi Paul devrait demander à son enfant aujourd'hui, c'est à nous de prêcher la parole avec insistance dans l'occasion favorable, même si l'occasion favorable ou pas, ainsi de suite, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus pas la saine doctrine. Bien-aimé, le verbe est dans le futur, mais nous vivons ce futur-là maintenant. Maintenant, là, les hommes ne supportent pas. Et qu'est-ce qu'ils font? La vérité, ne supporte pas la vérité, mais par contre, ils les aiment, ils choisissent leur propre docteur qui leur enseigne ce que leurs oreilles veulent entendre. Bien-aimé, nous vivons ce temps-là où les hommes n'aiment plus la parole pure que nous prêchons. Ils préfèrent écouter qu'on leur parle de la prospérité. Ils sont criés, ils ne veulent pas leur parler de la repentance. Or, nous savons, bien-aimés, que Jésus revient, comme dit cette fois, il va revenir comme roi, comme un juge, les royaumes de Jésus. Mais il faut que les gens soient sauvés. Comment les gens vont être sauvés si nous ne prêchons pas la parole? C'est pour cela qu'il nous dit de prêcher la parole pour amener les gens à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, puisque c'est très bientôt qu'il revient. Et le verset 3 nous dit que les gens ne veulent pas, ne supportent plus. Donc, pour dire que nous devons considérer cela, et ce sont des choses réelles que nous vivons, les gens ne veulent pas. Par exemple, les sujets comme homosexualité, ce sont des choses où nous voyons même les gens sont ceux qui se disent hommes de Dieu, ne prêchent même pas, mais sont d'accord avec cela dans les églises. Il y a des mariages hommes avec hommes de choses. Ce sont des choses, par exemple, que les gens veulent entendre. Les gens veulent entendre n'importe quoi. Alors, bien-aimés, nous vivons ce temps-là. Que le Seigneur nous épargne vraiment d'être dans les camps de ne pas supporter la saine doctrine. Et moi, c'est comme une interpellation. Quelle est la doctrine que j'aime, moi, attendre en tant que fille de roi? Est-ce que je supporte la vraie parole? Parce que cette parole, on dit, on peut te réfuter, on peut te faire des remarques, on peut te corriger quand tu as mal fait, on peut même te répondre, disons, te dire ce que tu as fait n'est pas. Mais est-ce que je suis prêt à accueillir cela? Puisqu'il y a Jésus qui revient, je dois marcher et combattre selon la règle. Amen.
Amen. Merci. Ne choisissons pas les versets bibliques à enseigner. Ne choisissons pas les chapitres à prêcher ou à témoigner, mais prenons toute la Bible, parce que toute la Bible est la parole de Dieu, et comme telle, elle doit être annoncée, prêchée, partagée, comme nous faisons aujourd'hui. Merci. Nous sommes au verset 4, toujours à propos de ce groupe-là qui n'aimait pas la vraie doctrine. Toujours ce groupe-là, on nous dit, ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Les histoires qui n'ont pas de valeur doctrinale, ils veulent passer le temps là-bas, passer tout le temps à écouter ou à lire des livres qui ne sont pas des livres d'édification, mais qui racontent des récits, des histoires des hommes qui ont fait ceci ou qui ont fait cela, alors que le message central est Jésus-Christ. Non, on en a assez avec Jésus. Et nous sommes dans cette période-là. Nous devons alors témoigner, ne pas avoir honte ni peur. Ne soyons pas complexés, mais disons la vérité. Merci. Papa Célestin ou maman Christine?
Oui, merci encore pour la parole, papa. J'arrive au verset 5. Le message est donné à Timothée en disant, mais toi, malgré qu'il y a des gens qui veulent entendre des choses bien aujourd'hui, quand on voulait parler de la sanctification, on peut même vous dire non, ça c'est pas un message d'actualité. Quand on parlait qu'il faut donner, non, ça c'est pas un message d'actualité. Ce qu'il faut prêcher l'actualité, c'est la bénédiction, c'est la prospérité. Mais il va lui dire au verset 5, mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Une personne qui doit garder le contrôle de soi-même, c'est une personne qui est assise et fondée sur les Écritures. Sinon, c'est impossible de garder le contrôle de soi-même. Pourquoi? Parce que les souffrances vont venir. Supporte les souffrances et remplis bien ton ministère. Et second, dit cela vraiment bien vers la fin du verset 5, que l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton service, ton ministère. Donc ne bâcle pas les choses parce qu'il y a la souffrance. Ne bâcle pas les choses parce que tu passes par des moments difficiles. C'est normal dans la vie chrétienne, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais toi, garde l'équilibre. Ne perds pas le contrôle en disant « Non, Dieu m'a abandonné. Dieu ne répond qu'aux autres, pas à moi. » Dieu, non. Garde ton contrôle et fonde toute ta vie sur les promesses de Dieu. Et ça, c'est encore un enseignement qui forme vraiment ce jeune homme qui a des responsabilités dans l'Église. Quand je prends d'autres versions, on va même dire « Sois sobre en tout ». C'est-à-dire, n'embrasse pas ceci, tu ne termines pas. N'embrasse pas cela, tu ne termines pas. Et on te voit, tu fais des choses vraiment qui montrent, mais ça, ce sont des choses de la jeunesse. Ça, il parle avec les gens sans respect. Il ne reçoit même pas, là, quand on lui fait une remarque, il ne tient même pas compte de ce qu'on lui dit. Non, sois sobre, équilibré et il est contrôle de toi-même. Quel bel exemple pour nous tous aujourd'hui, l'Église du Seigneur. Amen.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Pasteur. Nous donnons la parole au frère Thomas.
Oui. Thomas. Merci, Pasteur. Je voulais retourner au verset 2, les conditions de prêcher la parole de Dieu et d'y insister. Il y a des conditions qui sont favorables, mais il y a des conditions qui ne sont pas favorables, mais il faut quand même prêcher. Les conditions favorables, c'est facile de prêcher quand les conditions sont favorables. Mais le texte dit, insiste en toute occasion, favorable ou non. Est-ce que je suis prêt à prêcher avec insistance la parole de Dieu quand les conditions ne sont pas favorables? Quand il faut être dans un pays musulman où il est dangereux de prêcher la parole, est-ce que nous sommes prêts à prêcher? Je suis allé au Mali et il fallait prêcher à la toiture là-bas au-dessus. Et je prêchais sur Jésus, mais les musulmans, c'est un pays musulman à 96%. Ils n'ont pas aimé ça et on me cherchait en bas quand je devais descendre. Le Seigneur m'a fait passer. Mais il fallait d'abord prêcher et s'attendre peut-être que tu peux descendre et puis les musulmans te tuent. Nous devons être prêts à prêcher la parole dans le moment favorable ou pas. Parce que le moment vient quand réellement on va être exposé à des conditions non favorables à l'Évangile. Puisse Dieu nous aider à avoir ce courage de prêcher quand même la parole de Dieu, même au prix de la persécution. Merci.
Ok, même au prix de la persécution, prêchons l'Évangile. Merci. Nous pouvons maintenant passer à, en ce qui concerne l'apôtre Paul lui-même, parce que tout ce que nous avons vu concerne son fils. Et maintenant, il doit parler de lui-même. Quelle est sa situation? Nous sommes au verset 6. Maman Christine ou papa?
C'est maman. Merci beaucoup, Pasteur José, pour la parole. Je suis au verset 6. J'ai beaucoup aimé ce propos, ce dernier propos de l'apôtre qui dit, quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Et le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. Dans cette version, on dit le moment du grand départ est arrivé. Donc, nous ne voyons pas ce frère stresser en parlant, c'est ça, on regrette. Non, il est dans la joie, après avoir travaillé pour le Seigneur, de retourner parce qu'il a accompli ce qu'il fallait faire. Alors, moi, j'étais en train de dire, Seigneur, mais fais-moi grâce de faire ton travail comme tu me l'as envoyé et qu'à la fin de ma vie, je réalise que bientôt je vais dire adieu et je retourne. Et quand toi, as-tu m'accueillant, tu vas dire, bonne servante, tu es rentrée. Et ça, j'ai dit, fais-nous grâce, mon mari et moi, toute la famille, que nous te servons vraiment comme il le faut. C'est possible avec toi. Amen.
Mmh. Amen. Fais-nous grâce d'aller jusqu'au bout, comme Paul parle ici. Merci. Le verset 7. Thomas?
Oui, ce verset ici, ce passage ici, c'est le passage que mon père a récité avant de mourir en 2002 au Congo. Il a récité ce passage mon père connaissait vraiment la parole de Dieu avec une force profondeur. Il a craint Dieu, il a planté des églises, il a servi Dieu avec beaucoup de zèle. Il a aidé les gens, il a supporté l'œuvre de Dieu. Son grand-père avait accueilli les missionnaires des États-Unis et ont planté les églises en Angola et au Congo jusqu'en Rhodésie à l'époque, le Zimbabwe. Et il a répété ce verset il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est beau, frères et sœurs, de servir le Seigneur. On est conscient. Ça ne prend pas quelqu'un de nous dire que on est enfant de Dieu ou bien toi tu es de nous juger, non. Quand on craint Dieu, on le sert, on le sait aussi, parce que le Saint-Esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc Paul n'avait pas besoin que quelqu'un le confirme, il le savait, le Saint-Esprit lui a dit, toi Paul, tu as combattu le bon combat. Il entendait le Saint-Esprit lui dire, oui, toi Paul, tu as achevé la course, oui, tu as gardé la foi, et maintenant, la couronne vient. Donc, ça me pénètre de voir ça encore, et ça me donne toujours le courage de continuer à combattre, de continuer à marcher. On est dans une course, parce que la foi, on la garde. On est dans un combat, mais un bon combat, c'est déjà gagné. Et c'est une course, mais on doit l'achever, puisque au bout, il y a une couronne. Merci.
Mmh. Au bout, il y a une couronne. Merci. Merci beaucoup, frère. Frère Gaston?
Merci, pasteur. Je suis au verset 5 et 7. Au 5, je vais seulement personnifier, mais toi, Gaston, sois sobre en toutes choses. Demeure vigilant, tu portes les souffrances, même si je vois que le nombre du mal, la quantité avec laquelle et la vitesse avec laquelle le mal est en train de se développer, que je demeure vigilant, que j'endure la souffrance, demeurer dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et accomplir ma mission d'ambassadeur du Christ. Au verset 7, c'est un papa qui dit à son fils spirituel, et il me transmet ce message, que ce que moi je t'ai dit, ce n'est pas des paroles en l'air. Moi, ton père, j'ai combattu le bon combat. Et lorsqu'il me dit de supporter les souffrances, il sait, parce qu'il est passé par là. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est une réalité. Comme les bien-aimés venaient de le dire, le Saint-Esprit me convainc. Et lorsque le Saint-Esprit convainc que je suis enfant de Dieu, me convainc que j'ai gardé la foi, je dois demeurer dans cette voie-là et que je serve des témoignages aussi à d'autres. Ce n'est pas une question d'ensemble, mais tout d'abord, c'est l'individu Gaston à qui ce message est adressé. À toi, Gaston, sois vigilant. Moi, j'ai combattu les bons combats et j'ai gardé la foi. Donc, c'est possible de garder la foi malgré la prolifération du mal dans ce monde. Amen.
Amen. C'est possible de garder la foi par la grâce de Dieu. Merci. Nous donnons la parole à Maman Christine ou Papa Célestin, et je pense que cette parole peut terminer. Tiens la parole, mon frère ou ma sœur.
Oui, merci Papa José. Je vais prendre la fin du verset 5. Je vais laisser le verset 8 au modérateur.
Mmh.
La fin du verset 5 dit dans la version Parole Vivante, donne-toi complètement à ton ministère et acquitte-toi fidèlement de toutes ces tâches jusqu'à la fin. C'est une parole qui est adressée à Timothée, une parole qui m'est adressée aujourd'hui. Un ministère, c'est le service. Donc, chacun et chacune d'entre nous doit nécessairement avoir quelque chose que Dieu lui a donné à accomplir dans l'Église du Seigneur. Ça, c'est le ministère. Ça, c'est le service que Dieu nous a donné. Alors, il dit à Timothée, tu as un ministère. Ça peut être que tu prêches. Ça peut être que tu encourages les gens. Peut-être que tu visites les malades. Peut-être que tu fais quelque chose que le Seigneur t'a mis à cœur. Quand je prends l'exemple de notre frère Thomas, chaque samedi, il est à Downtown avec les sans-abri. Ça, c'est un ministère, et encore un grand ministère. Donc, chacun doit avoir un ministère. Un ministère de la parole. Chaque dimanche, je prêche la parole de Dieu. Chaque jour, j'encourage les gens dans le fumès à revenir à la parole. C'est un ministère. Nous pouvons avoir comme ministère, chaque fois, quand nous avons reçu une parole dans la méditation, j'appelle un frère, j'appelle une sœur, voici la parole qui m'a touché aujourd'hui. C'est un ministère. Alors, on nous dit, tout ce que Dieu nous a donné, accomplis-le bien et sois fidèle à cela. Ça, c'est vraiment une interpellation. Pour dire, tantôt, on prend quelque chose qu'on voudrait faire pour le Seigneur, après on abandonne, après on oublie. Et le Seigneur nous encourage ce soir de réfléchir, Dieu, qu'est-ce que tu m'as donné de faire dans l'Église? Et j'aimerais le faire au bien, pas de retard, pas de murmures, pas de pression, que je ne sois pas pressé pour pousser par quelqu'un pour faire cela. Non, que je le fasse de moi-même et que je le fasse bien. Parce que la couronne m'attend. Amen.
Mmh. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Le verset 5, c'est mon verset, le verset de ma vocation pastorale. Merci. Le verset 8, qui est le dernier aujourd'hui, nous dit ceci, à propos de Paul, et maintenant, le prix de la victoire m'attend, c'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Bien-aimé, l'apôtre Paul est sûr de ce qu'il attend. Et ce que j'ai aimé dans ce verset, c'est que l'apôtre Paul a pensé à nous. a pensé aussi à nous. Lui, il est partant. En écrivant, quand il écrivait ceci, il est partant. Il est partant, mais il sait que ce qui l'attend n'est pas seulement pour lui-même. Ici, on voit que Paul ne se vante pas. Il n'est pas orgueilleux. Paul dit la réalité. Que lui, il est convaincu que il a terminé la course. Il est allé jusqu'au bout. Et il y a une couronne qui m'attend. Qui l'attend? Mais non seulement lui, mais aussi aux autres. Ici, ça englobe les chrétiens de tout le monde. Les chrétiens de tout le monde. Ce que nous pouvons dire, nous qui sommes dans le FIMES, ce petit groupe-là, c'est de demander à notre Dieu de lui demander de nous faire la grâce de lui rester fidèle pour que quand il viendra en tant que juge, et la Bible a souligné juste juge, il nous donne aussi notre couronne comme il a donné à Paul. Voilà, bien-aimés, un passage qui nous encourage. Même si on nous dit que les gens sont ouverts aux choses inutiles, ils ferment les oreilles à la vérité biblique et à la vérité évangélique. Mais lorsqu'on persévère, lorsqu'on persévère dans la foi, dans le partage, dans l'enseignement, on peut rencontrer ce que l'apôtre Paul en sécurité à partir du verset 6, verset 8. Mais par la foi, nous disons que le Seigneur nous a réservé une couronne. Nous aurons ça par grâce, comme il a fait grâce à Paul. Le Seigneur nous a fait aussi grâce, mais persévérons, continuons, soyons fidèles à la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés, ce que nous pouvons dire de ce passage. La lecture pour demain se trouve toujours dans ce chapitre, le quatrième, à partir du verset 9 jusqu'au verset 22. 2 Timothée, chapitre 4, verset 9 à 22. Ça, c'est pour samedi. Et pour dimanche, nous allons nous retrouver psaume 42. Psaume 42. Ça, c'est dimanche. Si je donne la parole au pasteur Célestin pour nous communiquer, s'il y en a, je sais que ça ne manque pas.
Merci papa pour la parole. Juste les frères et sœurs qui sont à la radio, ils sont en Massachusetts, en Alberta aujourd'hui. Nous continuons à prier pour le camp biblique. Nous aurons une grande réunion d'évaluation le samedi en 8, pas le samedi de demain, le samedi en 8, avec les papes du bureau de Fumens et tous ceux de l'Europe. Donc, le samedi, ça c'est pour que nous puissions noter déjà que le samedi 6, nous aurons cette grande réunion. Ça sera l'avant-dernière d'ailleurs, parce que la dernière réunion, ça sera au début juillet. Celle-ci, c'est le début juin. Donc, celle-ci, elle est vraiment importante pour faire des mises au point sur tous les préparatifs. Et quand nous entendons que la grande famille des FIMES se prépare pour le camp public, est-ce que ça nous est indifférent ou un jour nous prenons le temps de prier pour ça chez nous, à la maison, et de voir qu'est-ce que nous pouvons faire aussi pour supporter cela financièrement? Ça, c'est une question et une interpellation. Amen.
Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous rappelons que tout de suite, là, nous allons entrer à une autre séance. C'est la séance de prière. Prière d'intercession. Non seulement intercession, mais la louange, l'adoration. Parce que nous voulons donner à notre Dieu sa place. Alors, nous sommes invités à y prendre part. Et si nous ne pouvons pas assister et que nous avons un sujet de prière, nous demandons aux frères et à la sœur qui a ce sujet-là de nous le donner, de nous le passer pour que nous puissions continuer dans la prière avec toi-même. Merci. Nous prions le Seigneur. Dieu de grâce et de paix, Dieu de miséricorde, tu nous demandes ce soir de nous presser à l'évangélisation. Tu t'es révélé à nous et tu veux que nous puissions parler de cela aux autres. Puisque le Christ, notre Sauveur, viendra en sa qualité de juge, personne n'échappera. Les morts et les vivants, à ce moment-là, seront jugés par le Seigneur. Et le Seigneur a prévu une couronne pour toute personne qui persévère, toute personne qui fait bien son travail, toute personne qui est vigilant, il aura ça, elle aura ça. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de prétendre à cette récompense, mais Seigneur, par ta grâce, souviens-toi de nous. Nous avons cru en ton nom. Nous avons reçu Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons compris qu'il est mort sur la croix pour nous. Seigneur, aie pitié de nous aussi. Que la grâce du Seigneur Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous, dès maintenant et à jamais. Amen.
Amen.
Allons dans la paix.